France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne du mois de Ramadan, mais tout de suite, la restriction arrive pour l'aborder d'un point de vue sociologique, voire sociographique, par une description de ceux qui observent le jeûne du mois de Ramadan. Et j'ai plaisir à accueillir Tariq Yildiz. Tariq Yildiz, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir et de nous donner de votre temps et surtout de partager avec nous les résultats de votre enquête. Vous qui êtes sociologue, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, vous en avez un qui fait autorité maintenant, de la fatigue d'être soi au prêt à croire. C'est tout un programme.
Oui, je suis assez intéressé par les questions identitaires. Et je crois qu'on est dans un monde où on a une certaine fatigue d'être soi, pour paraphraser Ehrenberg, que j'aime beaucoup, et que dans ce contexte-là, la dimension identitaire et religieuse devient de plus en plus centrale.
Et quasi monolithique, c'est-à-dire que pour certains, nous le verrons tout au long de l'émission si vous voulez bien, en résume ou en rétracte toute l'identité uniquement dans sa donne religieuse.
Absolument, parce qu'il y a une dimension à la fois identitaire et à la fois qui relève beaucoup de l'émotion dans la religion en réalité. Quelque chose qu'on a du mal à attraper comme ça, qui est à la fois assez simple à suivre parce que c'est fait d'interdit, de ce qui est permis. Donc il y a un côté rassurant, ça donne des repères pour des gens qui parfois en manquent. Je sais ce que j'ai le droit de faire, je sais ce que je n'ai pas le droit de faire. Bien sûr, pour des oreilles qui sont très habituées à la dimension très spirituelle, ça peut un peu heurter cette vision de la religion. Mais elle existe en particulier chez les plus jeunes.
Oui, j'ai un cadre, il est balisé, je me laisse voguer au sein de ce cadre et je suis rassuré. Si je le déborde, je suis en proie et à la proie d'une culpabilité, mais si j'y reste, je suis assuré de mon salut.
C'est ça, il y a un côté extrêmement rassurant, même pour les questions les plus banales. Lors de mes enquêtes, j'ai cité parfois dans mes livres des petites anecdotes. Je cite souvent la question du fromage caprice des dieux avec ce jeune qui demandait à un savant « Est-ce qu'il a le droit de consommer du fromage caprice des dieux ?»
À
cause du pluriel de Dieu. Et donc, la personne lui répond, ah non, ce n'est pas, on n'avait pas le droit, etc. Il y a un côté qui fait sourire comme ça, de loin. Mais en y réfléchissant, il y a un côté très rassurant pour une génération, parfois, qui justement manque de repères, se pose des questions, doit faire des choix en permanence. C'est ce que dit Ehrenberg dans un autre cadre, où il dit, en fait, aujourd'hui, on est obligé de faire des choix pour tout. Avant, le fils du boucher, assez naturellement, il devenait boucher. Aujourd'hui, avec Parcoursup, par exemple, dans l'éducation, on se pose la question de son orientation. Il y a eu un changement assez manifeste en l'espace de quelques dizaines d'années, finalement, où c'est un peu la rançon de la liberté. La rançon de la liberté, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité individuelle qui est plus importante et qui fait que on peut s'épuiser à devoir faire des choix. Et avoir une religion qui apporte un cadre, qui dit ça tu as le droit, ça non, ça voilà, qui trace une route, il y a un côté rassurant, une sorte de chaîne, quelque chose sur lequel on peut se reposer, voilà. Et c'est vraiment pas à négliger, et on le voit vraiment plutôt chez les plus jeunes générations.
Certes, le mois de Ramadan, par métonymie, on dit je fais un Ramadan, mais en réalité, on ne fait pas Ramadan, on jeûne pendant la lunaison du mois de Ramadan, mais c'est un peu comme si je disais je bois un verre. Donc c'est devenu une pratique comme ça. Ces jeunes gens qui observent le jeûne du mois de Ramadan, le font-ils en ayant intériorisé les dimensions inhérentes au jeûne ou c'est simplement parce que, comme ils le disent, je suis capable.
Pour moi, il y a une double dynamique. Effectivement, quand on les écoute comme ça, on se dit, il y a le côté un peu défi, il y a le côté un peu jeune, je fais des choses aussi pour me sentir appartenir à un groupe, je le fais avec mes amis, je le fais parfois en opposition au monde des adultes, parfois pour montrer que j'appartiens à un groupe qui n'est pas le groupe majoritaire, ça peut exister, voilà. Mais en même temps, je remarque qu'il y a une volonté aussi de faire les choses en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de se renseigner. Alors, peut-être qu'on peut s'en désoler, c'est moins se renseigner en lisant un certain nombre d'ouvrages, de références sur ce type de questions-là. Ça va être plutôt en visionnant un ensemble de vidéos courtes sur les réseaux sociaux, plus ou moins fiables parfois. Mais enfin, il y a cette volonté de dire, je veux pratiquer le jeûne, mais je veux savoir aussi pourquoi je le fais, quelles sont les significations des différentes nuits, la nuit du dessin, qu'est-ce que c'est. Et il y a des petites vidéos comme ça qui se veulent plutôt pédagogiques et qui sont très visionnées par les jeunes gens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce côté défi, ce côté effet de groupe, ce côté je le fais en opposition avec les autres. Mais il y a aussi, en même temps, ce côté, eh bien moi, je fais pas seulement les choses comme ça de manière aveugle, je veux savoir ce que c'est.
L'ennui, si tant est qu'il y en ait un, mais j'ai la faiblesse de le croire, c'est que le format de ces vidéos, et notamment de la part de ces imams autoproclamés, pas tous, mais en tout cas ceux qui sévissent sur les réseaux dont certains sont asociaux, c'est que le format d'une minute et quelques ou 140 mots ne parviennent pas à donner la quintessence d'une pratique avec cette assaise, déjà, pour l'expliquer.
Effectivement, il y a une question de format. Il peut y avoir une question de profil sans être désagréable avec personne. Mais je veux dire, il y a une profondeur qu'on peut avoir avec certains intellectuels qui connaissent ces questions-là, évidemment, qu'on va pas retrouver avec des jeunes gens qui ont appris des choses un peu sur le tas et puis qui ont eu d'un seul coup des milliers d'abonnés et qui déversent ce qu'ils ont appris finalement il y a assez récemment, sans beaucoup de prise de recul. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément avoir de mauvaises intentions et les amener vers des chemins qui ne seraient pas licites. Mais enfin, ce niveau de profondeur-là, évidemment, on ne peut pas l'attendre que de la part d'un universitaire ou de quelqu'un qui a baigné dans cette culture-là.
D'une manière incidente, que pense-t-il, notamment cette jeunesse, avez-vous posé la question sur la conjonction qui peut y avoir, cette année c'est le cas, entre le jeûne du mois de Ramadan chez les musulmans et le fait d'observer le carême chez les chrétiens, par exemple?
Honnêtement, sur cette question très précise, non, j'ai pas pu les interroger. Mais en revanche, je les ai beaucoup interrogés sur leur vision de la pratique des autres religions, y compris le carême. Et je peux vous assurer que il y a quelque chose qui s'illuminait dans leurs yeux de voir qu'il y avait d'autres pratiques, des gens qui pratiquaient. Il y avait une forme de respect naturel qui se manifestait pour les gens qui pratiquaient une autre religion, pas forcément la leur, ce qui bat un peu en brèche l'idée d'une pratique forcément qui serait complètement intolérante avec les autres. En fait, une forme de respect vis-à-vis d'autres types de spiritualité, d'autres croyances. Et ce qui va être le plus parfois méprisé, j'ose le mot parce que c'est le cas, ça va être plutôt la société dans son ensemble qui perçoivent comme manquant justement de religiosité, de spiritualité. Ils vont mépriser ce côté-là en disant, ben voilà, c'est la société qu'on nous sert et finalement on devrait renouer avec cette spiritualité. Mais c'est pas forcément toujours que la leur, ce n'est pas exclusif.
Le fameux désenchantement du monde, il manque de la magie, manque un peu des choses relevant de l'invisible, la finitude de l'homme, la contingence de la condition humaine. Tout ça, ces jeunes gens veulent les dépasser par une pratique. Y a-t-il les fameuses dimensions inhérentes aux jeunes, la dimension personnelle de patience, de se forger un caractère, d'éduquer son âme, etc. La dimension de partage est transversale dans la cité et la dimension de l'élévation spirituelle et d'intériorité où, conformément à un aphorisme bien connu, si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur.
Oui, alors ça, je l'observe beaucoup plus chez les générations un peu plus âgées. Il y a une dimension générationnelle indéniable. C'est-à-dire que cette dimension spirituelle, cette recherche de sens, ce point qui peut être fait avec soi-même, cette recherche de patience, elle vient de manière très spontanée et de manière immédiate chez les générations qui vont être au-delà des 25 ans en réalité, à partir de 25, 26 ans, etc. Plus jeunes, on va parler de partage, parce que c'est quelque chose qui est assez vécu dans la chair en réalité, mais on va moins parler d'autres éléments, et surtout pas de spiritualité, enfin beaucoup moins en tout cas de spiritualité comme on l'entend maintenant. Et ça, ça vient plutôt dans un second temps, à partir, je vous dis, à partir des 25, 26, 27 ans, où là, le discours porte beaucoup sur « je fais le point sur, ça me permet de réfléchir sur ma vie, où je vais, etc. » Des questions plus existentielles qui se posent dans ces termes-là, qu'on retrouve beaucoup moins chez les plus jeunes.
Alors, finalement, vous l'avez dit, chez les plus jeunes, c'est plus une adhésion. C'est une appartenance à un groupe dont l'ivresse d'un nous fusionnel, comme disent certains. Mais ces jeunes gens perçoivent-ils que leur identité, ou leur citoyenneté en tout cas, leur est déniée, donc ils se réfugient dans une forme d'identité supranationale et qui est l'appartenance à la communauté des croyants, à la Oumma, comprise comme étant effectivement cette communauté des croyants.
Bon, évidemment, c'est largement fantasmé. C'est une marque d'appartenance, en effet. C'est évidemment très, très marqué. Mais finalement, est-ce que la question d'identité, par essence, par nature, est pas quelque chose de très composite, de toute façon, souvent un peu fantasmé? Et finalement, bon, est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Vous voyez, il y a souvent, en les entendant, je me dis qu'il y a une sorte de passage obligé, comme ça, dans ces jeunes années, où on se construit un peu en opposition, et on essaie de construire quelque chose. Après, en discutant avec eux, ils se rendent compte que, finalement, ils ont développé autre chose, par rapport à leurs parents, à leurs grands-parents. Ils s'en rendent compte. Mais ils tiennent à dire, je fais partie de cette filiation, regardez, on jeûne. C'est comme la question de la culture. Parfois, j'en discutais avec des étudiants un jour. Et puis, j'avais le cas d'une jeune demoiselle espagnole qui me disait, moi, j'ai la même culture que ma grand-mère. Je mange de la paella. Et puis, elle adorait la paella aussi, ma grand-mère. Sauf que sa grand-mère, en fait, elle prenait un petit peu les fruits de mer et puis ce qu'elle avait sous la main, elle mélangeait ça, elle la mangeait. C'était chez elle. La jeune demoiselle, elle va dans un resto espagnol ici, dans le 15e arrondissement, et ils mangent le même plat. Mais c'est pas la même chose. Ils ont pas le même lien par rapport à ça. Et finalement, cette question d'identité, de culture, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas le fait de jeûner qui en fait appartenir à cette grande communauté. C'est le lien qu'ils vont avoir avec cette pratique-là. Et le lien qu'ils ont n'est pas toujours évidemment le même que le lien que peuvent avoir les aînés.
Oui. Et est-ce que le fait de ponctuer dans le temps le début du jeûne du Ramadan, sa fin, la rupture, par la fête dite de rupture du jeûne, et le fait de se sentir que de par le monde, et a fortiori pour la composante islamique de la nation française, eh bien, il y a des hommes et des femmes, en grand nombre, vous allez me dire les pourcentages, qui observent cette pratique. Et donc, le fait de se sentir à la fois dans l'espace, là c'est l'espace français, mais dans le temps, avec un début et une fin, ça n'augmente pas ce sentiment d'appartenance à un groupe qui vit une situation particulière.
Bien sûr, ce sont des marqueurs. Il y a un début, il y a une fin, il y a une temporalité, il y a des gens qui font la même chose au même moment, en fait. Il y a ce qu'on fait et il y a le moment. Et le fait que ce soit évidemment circonscrit dans une période, ça joue beaucoup. Et ça développe ce sentiment de « j'appartiens à quelque chose ». Voilà. Après, on peut connaître plus ou moins les gens qui sont très loin, on les fantasme un peu, voilà, c'est encore autre chose. Mais il y a une dimension dans l'imaginaire qui est très importante de dire « voilà, on est en lien et on pratique la même chose. »
Alors, qu'en est-il maintenant de cette affaire de pression communautaire que celui qu'on soupçonne peu ou prou de confession islamique, même si son lien à la pratique est lâche, et s'il n'observe pas le jeûne, il subit les lires de ses pairs?
Oui, évidemment, il peut exister des pressions communautaires. C'est inhérent à n'importe quel groupe. Vous voyez, quand on voit un groupe humain, si on a une majorité qui va pratiquer quelque chose et que quelqu'un qui est minoritaire ne le fait pas, oui, il va être parfois discrédité, il va avoir un peu de désapprobation, etc. Donc ça existe. Mais j'insiste sur un point, là où ça existe, cette pression communautaire, c'est souvent là où il existe d'autres problèmes. C'est-à-dire que la pression communautaire, elle n'existe pas de la même manière si on a une population de CSP+ dans un cadre spécifique ou si on est dans un quartier populaire à Pierrefitte-sur-Seine. C'est pas la même chose. Et j'ai observé des collèges, pour essayer de voir ce qui pouvait s'y passer. Et on est parfois face à des jeunes adolescents finalement, qui aussi utilisent ce genre de choses pour s'affirmer, affirmer un groupe. Ce qui veut dire aussi condamner ceux qui sont minoritaires, ceux qui rentrent pas complètement dans le groupe. Voilà. Donc, je ne le nie absolument pas. Bien sûr, ça existe. La seule chose que je dis, c'est que il y a d'une part quelque chose qui peut être inhérent à un groupe, qu'on paye aussi parfois le fait qu'on a une forme d'homogénéité dans certains quartiers, dans certains collèges, etc., ce qui renforce ce type de dynamique-là, finalement. On parle à longueur de journée de diversité, mais dans les quartiers très populaires, parfois, il n'y a pas de diversité, justement. Oui, on peut le voir dans ce sens-là, également. Voilà. Donc, c'est certainement pas à nier, ça existe, mais il faut remettre ça dans ce contexte un peu plus global.
Et puis nos amis de Pierrefitte-sur-Seine n'ont été pris que comme un exemple. Ils ne sont pas le parangon de toutes les difficultés qui se trouvent dans les quartiers dits populaires. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous abordons la question du jeûne du mois de Ramadan d'un point de vue sociologique avec une description. C'est pour ça que je parle davantage d'une sociographie qu'une sociologie, une étude de ceux qui observent ce jeûne, notamment parmi les jeunes gens, avec le sociologue Tariq Yildiz, qui est aussi enseignant à Sciences Po, Paris, et auteur de nombreux ouvrages qui traitent de ces questions. Mais aussi, et le mets est de taille, un enquêteur du terrain. Et merci, cher Tariq Yildiz, de nous faire profiter des résultats de vos enquêtes. Je passerai pour cette deuxième partie à une autre question tout aussi importante. En réalité, quand on jeûne, on est plutôt dans une optique d'ouverture, de bonté, de miséricorde. On n'ourdit pas un complot contre autrui, on ne participe pas à une telle ou telle conspiration. Mais ces jeunes gens, me semble-t-il, sans vouloir généraliser, ils observent le jeûne du mois de Ramadan, mais parfois il leur arrive de risquer dans le métro. Et c'est tout à fait antinomique. Alors le comprennent-ils ou pas ? Ou ces vidéos qui suivent leur font savoir cette antinomie ou pas ?
C'est une question importante, intéressante et qui revient assez difficilement justement chez les jeunes gens en fait. Cette question éthique, qu'est-ce que je fais ? Le sens que je donne à ma pratique et cette prise de recul, le fait de comprendre qu'il y a cette dimension éthique, ce côté comportement. En réalité, parfois, on peut le sentir un petit peu, c'est un petit peu effleuré dans les vidéos qu'ils peuvent visionner. Mais c'est jamais l'élément principal. Jamais. Et ça vient un petit peu après coup. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que souvent, c'est l'âge passant qu'on a davantage cette dimension-là qui apparaît. Mais on a cette contradiction un peu inhérente dans cette pratique-là, où à la fois on se dit oui, bah je suis un bon musulman, donc je vais respecter à la lettre la partie très émergée de l'iceberg, ce qui se voit, et le reste, quand on fait la remarque, ils s'en rendent compte, ils se posent la question, mais c'est moins intuitif, ça se voit moins, et il faut une certaine prise de recul, un certain recul, y compris intellectuel, pour pouvoir eh bien, prendre une distance et aborder cette question-là avec sérénité. Et ce n'est pas très simple.
Tariq, ils disent l'éventail de vos questions et l'objet de, votre questionnaire et de votre enquête est très large. Pardonnez-moi si je vous pose les questions et d'une manière peut-être un peu décousue, mais je vous les donne comme ça au fur et à mesure. J'ai cru comprendre qu'il y a un rapport inversement proportionnel entre cette pratique et l'appartenance à des catégories sociales dites plus.
Absolument. Alors ça, bon, je tiens à préciser qu'on ne dispose pas de beaucoup de données à ce niveau-là et qu'on est obligé de se référer à des enquêtes type sondage. Même si je ne suis pas bourdieusien, il faut reconnaître qu'il nous a mis en garde sur l'utilisation des sondages à juste titre. Et donc, il faut quand même prendre ces chiffres-là avec des pincettes. Néanmoins, on a un certain nombre de chiffres qui sont relativement récents, et qui montrent que, en effet, premièrement, on a une pratique supérieure quand on est jeune. Et deuxièmement, la catégorie socio-professionnelle est assez prépondérante. C'est-à-dire qu'on va avoir une moyenne de pratique du jeûne d'à peu près 2/3 de la population musulmane. Pour les CSP+, on va avoir un peu moins de 50% qui déclarent jeûner. Voilà. On voit bien que finalement, quand on parle des musulmans, quand on parle d'un bloc comme ça, évidemment, tout cela n'est pas homogène, et c'est certainement pas un sociologue qui va dire l'inverse. Il y a la position socio-économique des gens, il y a le lien qu'ils peuvent avoir dans la famille, il y a la place qu'ils occupent dans la société, etc., qui, évidemment, a un rôle très important dans la pratique, dans le lien qu'ils peuvent avoir à certaines pratiques aussi, et, en l'occurrence, dans l'assiduité et dans le fait de pratiquer notamment voilà le jeûne du Ramadan. Donc voilà, c'est une dimension peu connue parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse à juste titre, mais la position socio-économique est encore plus fondamentale et un élément encore plus déterminant dans la pratique du jeûne.
Est-ce à dire que la pratique du jeûne du mois de Ramadan est aussi une pratique de dévotion populaire?
Moi, je le crois. Je pense qu'il y a cette dimension-là qui, finalement, se retrouve un peu partout dans le monde. C'est pas une problématique franco-française. Et effectivement, il y a ce côté, plus on appartient aux classes populaires, plus on va pratiquer ce genre de choses. Ce qui ne signifie pas que les CSP+, vont être forcément moins croyants, etc. Mais il y a cette dimension spirituelle, éthique qu'on évoquait tout à l'heure, qui va parfois, évidemment, c'est difficile de généraliser, mais qui va davantage revenir dans le discours quand on fait des entretiens, qui ne va pas forcément renier ça en disant qu'il veut pas le faire, etc., mais qui va prioriser, hiérarchiser dans ce qu'il va dire, en disant, voilà, il y a la question de l'éthique personnelle, il y a telle et telle chose, et ça, on le sent vraiment, vraiment très fortement dès lors qu'on fait des entretiens semi-directifs avec les uns et les autres.
Nous avons appris, ici même, dans cette émission et ailleurs, et vous venez de le rappeler, que les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture, pour peu qu'on les triture un peu et on les oriente dans le sens qu'on souhaite. Mais pour la jeunesse entre 17 ans et 24 ans, pour ne prendre que cette catégorie, j'ai cru comprendre qu'il y en a 83% de pratiquants qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. C'est énorme.
Oui, c'est vrai. Bon, ça, typiquement, par exemple, ça vient d'un sondage IFOP qui date de 2019, pour être très précis, avec un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes, sondage voilà, type téléphonique, etc. Je ne remets pas en cause en disant que
la
forcément c'est
la scientificité du sondage, mais bon.
Mais c'est quand même à avoir en tête, parce que notamment dans ces jeunes âges-là, pour moi, c'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis pas que les gens ont forcément menti, hein. Mais disons qu'aux jeunes années comme ça, il y a une dimension identitaire qui peut être assez forte. Et quand on vous pose la question comme ça, parfois on peut être tenté de répondre oui comme un réflexe, parfois aussi. Je pense qu'il y a cette dimension. C'est difficile à documenter et à prouver ce que je dis, mais honnêtement, j'ai fait tellement d'entretiens avec des jeunes gens que les premières réponses qu'on peut avoir sont pas les mêmes au fil de l'entretien. C'est-à-dire qu'au début, les 5 premières minutes, on va nous dire des trucs qui peuvent paraître très, parfois, brutaux, directs, sans mesure, sans nuance. Au bout d'1 heure d'entretien, les gens se dévoilent, on voit qu'il y a plein de nuances, ils vont vous dire, oui, j'ai jeûné, mais voilà, c'est vrai que pas tous les jours, pour X raisons. Et donc, il y a toute cette nuance, toute cette complexité qu'il est très difficile à saisir dans un sondage comme ça simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une surreprésentation. Oui, plus on est jeune et plus on jeûne. Effectivement, il n'y a pas que cette étude qui l'a montré, voilà. Et pour moi, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur cette dimension identitaire, parce qu'on se raccroche à quelque chose, on se raccroche à un point de repère qui nous semble important dans un âge où on peut aussi chercher un petit peu, et donc il y a un côté rassurant que de pratiquer. Non seulement on s'inscrit dans une démarche familiale, dans un héritage familial, on ne se renie pas en fait. En pratiquant le jeûne, on dit eh ben moi, je fais partie de cette lignée. Il y a ça aussi qui se joue. Et en même temps, je fais partie d'un groupe plus large, au collège, au lycée, avec mes semblables. Et c'est une forme de ciment entre nous.
Il y a quelque chose de paradoxal aussi dans cette pratique-là, le jeûne du mois de Ramadan et le fameux 4e pilier sur les 5 de l'ossature de la pratique cultuelle islamique. Et parfois, pour ne pas dire souvent, on a des jeunes gens qui observent le jeûne du mois de Ramadan, mais qui finalement, pour la prière, l'aumône, on ne va pas leur demander s'ils n'ont pas des revenus propres, ou même le pèlerinage, la profession de foi est facile. Pourquoi privilégient-ils, eux, la pratique du jeûne du mois de Ramadan par rapport à la prière?
Eh bien, il y a un côté plus visible, effectivement, et certainement plus simple. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait un peu des influenceurs, des imams 2.0, parfois un peu autoproclamés, etc. Ça, en revanche, c'est quelque chose sur lequel ils insistent énormément, sur la prière. En disant, voilà, attention, on parle du Ramadan, mais la prière, c'est comme ça. Et puis, il faudrait voilà se lever avant que le soleil ne se lève pour faire la première prière, puis les 5 prières, etc. Et puis, oui, voilà. Et ça demande une discipline, évidemment, supplémentaire. C'est un coût supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas anodin. C'est une discipline de vie, quasiment. Et en même temps, et se lever à 5h du matin chez soi, alors que personne nous voit, en fait, on est seul avec Dieu. C'est pour reprendre ces termes-là. C'est un peu différent on n'a pas cette dimension collective. En tout cas.
Oui. Dans mon esprit, en disant tout à l'heure qu'il y a quelque chose de paradoxal, c'est que je m'attendais, le confesse, à une réponse de type « oui, mais le jeûne du mois de Ramadan est visible ». Mais en réalité, il n'y a pas plus invisible que cela, puisque quand on jeûne, on est en état de jeûne, on est le seul à savoir. Comment, pour certains, si on revient aux catégories socioprofessionnelles, certains s'arrangent dans leur vie de tous les jours. Nous sommes dans un état laïque, la société est sécularisée. Peut-être que les jeunes gens, avec leurs gros sabots, viennent imposer une vision des choses. Je dis bien imposer, peut-être j'exagère, mais vous me confirmez cela ou vous l'infirmez. Mais d'autres ont la possibilité de nuancer. Comment font-ils?
En fait, ils nuancent parce qu'ils composent une forme de religieux avec qui ils sont, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont construit dans la société, ce qu'ils ont construit dans leur lien avec la famille, ce qu'ils ont construit intellectuellement. Ils se sont nourris aussi intellectuellement de plein d'influences, etc. Et donc, il y a une certaine forme de prise de distance. Et j'ai beaucoup vu dans mes enquêtes des gens qui peuvent être très croyants, mais qui vont me dire, voilà, effectivement, là, je travaille, si je jeûne vraiment, en fait, je vais pas être en état de travailler correctement. Et je trouve que ce serait pas juste pour mon employeur qui me paye.
Parce qu'il y a un contrat, avant qu'il soit un contrat moral. De travail, un contrat moral.
Absolument. Et dit en ces termes-là. Et pourtant, la personne était extrêmement croyante. Cette personne-là qui, parfois, se lève à l'aube pour prier, qui va mettre en avant cette dimension éthique, qui va parler de tout cela, Et effectivement, je l'ai plus trouvé dans ces catégories CSP+ qu'on évoquait tout à l'heure. Mais j'insiste sur le côté, c'est pas une question d'intensité du religieux. C'est pas qu'ils sont moins religieux. C'est qu'ils vont mettre en avant d'autres choses, d'autres principes, d'autres valeurs, même si c'est difficile de définir ce mot, d'autres valeurs. En disant, j'ai quelqu'un que j'ai interviewé qui m'expliquait que dans son restaurant d'entreprise, bon, il en faisait pas des caisses, mais bon, il prenait jamais de viande parce qu'il voulait pas consommer de la viande qui n'était pas halal, mais voilà, il l'évoquait jamais directement. Mais qu'un jour, il avait été invité chez son patron, qu'ils avaient mis un certain nombre de choses, y compris de la viande, il dit, en fait, j'ai mangé, et sans problème, en fait. En me disant, oui, si j'avais eu le choix, une alternative, mais ça aurait été trop discourtois par rapport à la personne qui m'accueille, avec ce recul-là. Je sais que c'est pas essentiel. Dans ma vie de tous les jours, je respecte ça, mais c'est pas ça qui va m'amener au paradis ou en enfer. Voilà, oui. Pour reprendre ces mots.
Et s'il savait ou connaissait la fameuse fatwa de Mohamed Abdou, alors grand mufti d'Égypte, dite la fatwa du Transvaal, datant du 28 octobre 1903, où il répondait à des musulmans venus d'Inde s'installer en Afrique du Sud, et ils lui ont posé la question. Les moyens de communication de l'époque prenaient du temps. Et au bout d'un mois, la réponse est venue. D'abord, la nourriture des gens du livre vous est rendue licite. Deuxièmement, tant que vous ne mangez pas d'une viande d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu, vous pourrez consommer cela. Et troisièmement, quand vous avez un doute quelconque et vous voulez apaiser votre cœur, il suffit de prononcer la formule propitiatoire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, pardonnez-moi pour cette longue intervention pour revenir à la fameuse fatwa dite du Transvaal, c'est que aujourd'hui on fait une fixation quasi maladive sur tel ou tel aspect qui finalement n'entame pas la sincérité du croyant.
Mais oui, mais un autre exemple que j'ai aussi, j'interrogeais des collégiens et pour me montrer qu'ils étaient extrêmement religieux et pieux et qu'ils y arrivaient, ils me disaient voilà, par exemple, quand on achète des bonbons, systématiquement on regarde s'il n'y a pas de gélatine ou voilà, je sais pas quoi, etc. Et puis on a appris qu'il y avait un code, c'est E400, enfin je me rappelle plus du code, enfin voilà. Ils étaient obsédés par cette question et quand on les poussait vers d'autres questions, oui, il y avait quelque chose qui se passait avec une forme de prise de conscience parfois de dire ok, effectivement c'est peut-être la dimension la plus superficielle ici, mais parfois ça met du temps.
D'ailleurs, autant se préoccuper des édulcorants que de la fameuse gélatine, et ça leurs parents leur font savoir et il y a quelques conflits de génération puisque avec du recul certains parents en prennent un peu de distance.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, de voir quel était le lien entre ces jeunes et les parents, voire les grands-parents. Parce qu'il y avait une pratique qui pouvait être différente. Chez les parents ou les grands-parents, souvent, on a emporté dans ses valises une pratique de l'islam ancestrale. Hein, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est pas pour dire mieux ou pas, voilà, c'est pas la question. Mais une forme de pratique reçue en héritage. Et chez ces jeunes gens qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France, il y a une forme d'intransigeance sur les questions qui semblaient les plus anecdotiques pour les parents et les grands-parents. C'est ce qu'on se dit sur la question de la viande, sur ces bonbons, etc. Oui. Et finalement, c'est l'effet inverse qu'il y a eu. Ce sont souvent les enfants qui ont converti, entre guillemets, les parents à ce type de pratique, à être très vigilants sur ce genre de choses.
Qui, eux, par souci de recherche de paix familiale ou simplement parce qu'ils ont réussi à les convaincre.
Ils ont réussi à les convaincre, mais en même temps, bon, parfois, il y avait cette crainte des premières familles immigrées, parfois, de voir leurs enfants oublier complètement leur culture et les origines. Et donc, au départ, quand il y a eu ce genre de réflexion, je vais pas jusqu'à dire que ça a rassuré les parents, mais enfin, ça ne les a pas choqués plus que ça. Après, il y a eu parfois des mouvements inverses avec un excès, et là, certains ont commencé à prendre peur en disant « Non, mais c'est pas toi qui va m'expliquer la religion, ça se limite pas à ne pas manger des bonbons. »
C'est un peu comme les mères qui, finalement, entrent en conflit avec leurs filles, qui viennent leur dire « tu n'es qu'une mécréante puisque on voit tes cheveux.
Oui, tout à fait. On a ce même mouvement-là. Et donc, qui, on en a beaucoup entendu parler pour le voile, mais moins sur ces pratiques un peu du quotidien. Dans une grande surface ensemble, et ça devient tout un débat. Non, maman, on peut pas acheter ça, regarde. Ah bon, ok. Et là, je vois des parents qui sont pourtant pieux, qui parfois disent, non mais là, s'ils voient ça, ils vont nous dire que c'est pas bon, etc. Qui a un rapport un peu inversé. Mais en même temps, pour le jeune, il y a un côté où il se construit un peu en opposition avec ses parents, en étant plus blanc que blanc, si j'ose dire. Ok, c'est pas sur l'essentiel, et parfois les parents, pas tout le temps, mais ont pas non plus ce réflexe de les pousser vers plus de spiritualité ou ce genre de choses. Et ils se mettent sur ce champ-là. Et sur ce champ-là, bah, ils ne peuvent que s'incliner, finalement.
Parce que, encore une fois, les jeunes gens ont des canaux d'information que les parents, et a fortiori les grands-parents, n'ont pas, ou ils les ont d'une manière classique, puisque avec le câble ou la parabole, ils se mettent sur une chaîne de télévision qui leur enseigne les choses, encore une fois, d'une manière classique.
Oui, oui, tout à fait. Là, on a vraiment ces jeunes gens qui sont éduqués avec autre chose, avec ces vidéos-là, avec ces nouveaux influenceurs. Je les appelle souvent des influenceurs parce que c'est à peu près le cas, avec les mêmes méthodes, avec la même diffusion, avec la même popularité.
شعبان جيت يا رمضان وحوي وحوي وكمان وحوي.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous traitons la question du jeûne du mois de Ramadan d'un point de vue sociologique avec Tariq Ildiz est sociologue, enseignant à Sciences Po, Paris, qui travaille, un sociologue du terrain, et c'est le fruit des résultats, presque nous les dépouillons ensemble, de cette enquête auprès des jeunes gens, et d'autres moins jeunes aussi, quant à la pratique du jeûne du mois de Ramadan. On a un jeûne sans l'accent circonflexe et un jeûne avec accent circonflexe. Ça, nos auditeurs l'ont compris. Pour cette dernière partie, presque la société, toujours sécularisée, dans un état laïque, a dû, pour la partie économique, s'adapter un peu puisque les centres commerciaux, la grande distribution, répond pour des considérations de profit économique durant ce mois, cette lunaison du mois de Ramadan, puisque les étals sont achalandés.
Et oui, ça c'est une nouveauté, disons quand même, depuis les 5-6 dernières années. C'était un peu plus discret auparavant, effectivement. Et on voit de manière totalement assumée, désormais, voilà, des rayons entiers pour saluer le mois du Ramadan, avec des produits parfois spécifiques, avec de la viande spécifique, etc. Effectivement. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est un peu normalisé en fait dans ce monde économique au final, avec des familles qui vont faire leurs courses de manière assez systématique, avec des codes particuliers qu'on retrouve d'année en année.
Nous ne sommes pas encore arrivés au cas où les villes entières s'illuminent avec bon Ramadan, comme le cas. Bien sûr, il y a un mode particulier et un modèle spécifique à la Grande-Bretagne, comme le cas de la ville de Londres ou ailleurs, ou en Australie, c'est encore plus loin. Mais sans qu'on se rende compte, dans certains cas, qu'il y a le jeûne du mois de Ramadan et on est en plein période de Ramadan. Mais est-ce que dans les certains quartiers, le fait d'inviter des voisins ou de partager, parce que vous m'aviez dit que ces jeunes gens sont sensibles à la notion du partage, là on peut s'en rendre compte.
Ah mais oui, mais alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement courant, y compris dans les quartiers populaires, je vais dire même surtout dans les quartiers populaires, ce moment de partage où on invite les voisins, etc. Et j'ajoute, même si il y a une forme d'homogénéité, on peut le regretter, mais qui s'est imposée petit à petit, mais y compris pour des familles non musulmanes. C'est-à-dire qu'on invitait les voisins, même si on les invitait pas, on leur envoyait quelque chose de manière systématique, chaque soir. Alors, il y a les fameuses pâtisseries, etc., mais c'était aussi des plats chauds, etc. Et c'est quelque chose qui est extrêmement marqué jusqu'à aujourd'hui, qui était fait de manière très systématique, hein, qui continue de l'être. Mais j'ai fait une petite remarque sur la question de l'homogénéité des quartiers, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, on avait des quartiers qui étaient plus divers, qui étaient plus mélangés, avec beaucoup plus d'obédiences différentes. On avait une variété de gens qui venaient d'horizons différents. Et aujourd'hui, on a une homogénéité qui s'est installée. C'est la réalité sociologique des quartiers populaires aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus ce partage, ça existe. Mais vous voyez, avant tout le monde savait, et même des familles qui étaient soit athées, soit chrétiennes, voilà, attendaient ce mois-là parce que c'était très agréable de le fêter ensemble, d'avoir un moment de partage, etc. C'est des choses qui existent.
Oui, les fameuses réjouissances ou les festivités chaque soir. Qu'en est-il du Ramadan, qui, ne l'oublions pas, est synonyme de tapage nocturne? Y a-t-il quand même des injonctions ou des instructions, à tout le moins, pour ne pas incommoder le voisinage, parce que les gens travaillent le lendemain, et même ces jeûneurs doivent en principe réviser pour leurs devoirs ou dormir relativement tôt pour se lever tôt pour aller travailler? Cela est pris en considération ou pas?
Je vous cache pas qu'il y a eu des tensions et des difficultés à ce niveau-là, mais finalement c'est pas à isoler du reste des problèmes. En réalité, on a des quartiers où il y a souvent des incivilités, des problèmes, etc. Et ça participe de ça. Ça va être les mêmes qui vont faire du bruit en pleine nuit, à 3h du matin, en manquant de respect à l'ensemble du quartier, d'ailleurs, y compris aux jeûneurs, hein, qu'on va retrouver en faisant des petits larcins parfois. C'est une réalité qui existe. Elle est concentrée quand même sur une minorité, mais c'est vrai qu'il fait du bruit et qui a été parfois surmédiatisé, hein, ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est des problèmes qui n'existaient pas. Oui, ça existait, avec le fait de déranger un peu tout le monde. On avait souvent des plaintes comme ça, des gens qui pouvaient se plaindre, de dire, les gens sont pas suffisamment discrets, et puis ils nous embêtent la nuit, et puis nous, le lendemain, on se réveille le matin. C'est des choses qui existent, mais qui sont le fait d'individus souvent qui ont d'autres problèmes et qui commettent d'autres soucis, au-delà du fait de faire du bruit pendant le Ramadan.
Et pourtant, ils jeûnent, alors que font-ils de l'aphorisme qui enseigne que celui qui n'a pas pu échapper à une grossièreté ou à une insulte de la part d'un pseudo-jeûneur, celui-ci n'a récolté à la fin de la journée que la faim et la soif?
Alors ça me fait sourire parce que j'entendais des jeunes parfois quand on se balade dans les quartiers qui commencent un peu à s'insulter pour une bêtise pendant le Ramadan, qui sont censés jeûner et puis donc ils disent, bon, t'as de la chance que c'est le Ramadan.
En plus, parce que sinon ça aurait été peut-être une baffe en plus que de l'insulte. Donc on est un peu chez les fous où la vie et cette pratique est devenue totalement antinomique. En principe, nous n'avons pas de leçons à donner, mais à ces imams, je ne parle pas nécessairement de ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux, d'enseigner ou d'expliquer que, avant tout, si on est en état de jeûne, on goûte à la ataraxie, allez, j'utilise un terme technique, à l'absence de troubles intérieurs. Et ça, c'est enseigné, c'est perçu, on l'explique ou pas, ou peu.
Mais pour moi, c'est le grand défi. En fait, c'est le grand défi. Si on veut, je quitte un peu ma casquette de sociologue, mais en matière de politique publique, en fait, si on souhaite avoir une élévation spirituelle, eh bien, enfin, je veux dire, il faut laisser de l'espace pour autre chose, pour un autre discours. C'est, pour moi, c'est très important. Je ne dis pas en disant cela que ça doit être un tel qui doit le faire ou l'État, etc. Moi, ça, c'est pas du tout mon sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que on a ce grand absent. Et finalement, vous voyez, toutes les tensions qu'on voit dans la société, il y a des responsabilités partagées. Mais il y a aussi une responsabilité des gens qui pratiquent l'islam de manière un peu superficielle. Bien sûr, il faut regarder les choses en face. Il y a aussi cette responsabilité-là. Et pour avoir une société plus apaisée, moi je pense que ça passe par ça, par cette élévation spirituelle, ce rapport au religieux, sans être donneur de leçons, vous êtes dans le bien, vous êtes dans le mal. Mais finalement, cette dimension intellectuelle qui est absente, elle est essentielle.
D'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir et de connaissances. Peut-être encore un autre aspect, comment ces jeunes gens, et peut-être même leurs parents, perçoivent-ils les fameux iftars républicains auxquels les autorités prennent part, ou même dans certaines communes, on a le conseil municipal, peut-être pas en totalité, mais qui viennent partager les repas de rupture du jeûne.
Oui, alors bon, déjà, il faut voir à quel point est-ce que c'est connu, parce que parfois ça se fait de manière plus ou moins confidentielle. Mais sur cette dimension très précise, moi j'ai vu, pas faire forcément pour l'Iftar, etc., mais vous voyez, les constructions qui ont été faites un peu à l'initiative de l'État, par exemple, autour du CFCM à l'époque, etc. Il y avait énormément de critiques chez les jeunes musulmans que j'interrogeais, parce qu'il y avait cette perception d'utilisation du religieux pour autre chose, à d'autres fins, à la dimension politique. Et puis, de faire un peu ami-ami avec les autorités pour d'autres raisons, voilà. Et ça délégitimait un petit peu parfois le discours et ce qui pouvait être produit. Voilà. Bon, après, j'ai connaissance aussi de, voilà.
Là, on est, si les choses n'étaient pas, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, un peu biscornu, dans la compréhension de la laïcité avec la séparation des deux ordres. Donc l'État n'a pas à se mêler des questions cultuelles, mais le paradoxe est que l'État est aussi fondé légitimement à trouver des interlocuteurs qui tardent à apparaître. Ma question était au niveau plutôt local ou même de la municipalité, voire du département, quand le préfet prend part à ces fameux repas, républicains, citoyens, mais en tout cas, les j'entends, et ça se multiplie maintenant, iftar républicain.
Oui, non, mais j'entends. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement un petit peu paradoxal. On peut se dire que c'est comme une marque de respect, que c'est sympathique, etc. Mais moi, ce que j'ai entendu, ce qui vaut ce que ça vaut, parce que c'est du qualitatif, mais c'était pas une grande adhésion vis-à-vis de cela. Hein. Bon, après, il peut y avoir des manières de faire, les discours qui sont tenus, ça peut évidemment changer, mais qui participe, etc. Mais disons que pour moi, c'est pas, l'attente n'est pas là, en tout cas. L'attente des gens qu'on interroge, c'est loin de se résumer à cette question.
Et les repas interreligieux, quand des chrétiens, des juifs, parfois en dehors de la famille abrahamique, des bouddhistes et d'autres, viennent partager ces repas, ceux-là sont plutôt, ou pas, je pose la question, bien perçu par cette jeunesse.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, là, il y a une distinction très franche. C'est-à-dire que l'État, ce que représente l'État, c'est autre chose. Et c'est vrai que peut-être que c'est aussi en lien avec le discours qu'on a sur la laïcité. Hein. Il y a un mélange de tout cela. Mais en revanche, quand c'est des hommes d'autres religions pour un partage particulier, eh ben il y a une forme de respect qu'on voit, même chez ceux qui peuvent paraître les plus intransigeants. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un respect pour l'homme de foi. Avec sa foi, évidemment, il pense pas comme nous, il a d'autres croyances, mais le partage est plus facile, parce qu'il y a une sorte de référentiel, ou en tout cas de valeur qu'on pense à peu près commune quelque part.
Peut-être une question que j'aurais dû vous poser un peu plus tôt. On est, il y a eu à un moment donné, et je ne sais pas si cette affaire perdure ou pas, durant les cours, et a fortiori lorsque la rupture du jeûne est relativement tôt dans l'année, comme cette année-là, en principe, on ne devrait pas le faire. Fait-on joyeuse bonbon, série paille, on mange comme ça, ou on rompt son jeûne discrètement, ou on ne rompt pas son jeûne du tout?
Alors là, c'est dans les collèges, en particulier, on avait ce phénomène de, oui, je romps mon jeûne en plein cours, et puis je fais un peu de vacarme, etc. C'est des choses qui ont existé. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait. Plus le rapport au religieux va être un peu spirituel, etc., et plus les choses sont faites très discrètement en réalité. Ce niveau de discrétion, et c'est pas parce que les gens en ont honte, hein, mais est inversement proportionnel à ce phénomène.
Parce qu'il y a normalement de la pudeur, de la retenue, et on n'incommode pas autrui par sa propre pratique, et c'est comme ça que l'élévation spirituelle se fait. J'avais encore d'autres questions, mon cher Tariq, ils disent, mais le temps nous fait défaut. Je vous remercie infiniment. Merci d'être venu partager avec nous et avec les auditeurs surtout le fruit et les résultats de votre enquête. Vous êtes sociologue et vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous n'avez pas eu des étudiants qui rompent le jeûne en classe?
Ah, moi non.
Merci. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et aujourd'hui, on a parlé plutôt de l'aspect sociologique de la pratique du jeûne du mois de Ramadan dans une société sécularisée et sous la voûte commune de la laïcité. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierre Monteil et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.